Eh bien, bonjour à tous et nous voilà sur une nouvelle émission de Culturellement Vôtre sur RVE. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'être avec Monsieur Roubo Kouachi, directeur de la maison Aragon Triolet, Triolet Aragon. Hein. Bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, Monsieur Roubo Kouachi, vous alliez nous parler de ces deux grandes personnalités de la littérature française, Louis Aragon, Elsa Triolet.
Alors, ce sont deux personnages assez originaux, dans la mesure où Aragon, ni son père ni sa mère ne s'appellent Aragon, et Aragon n'est pourtant pas un nom d'emprunt. Parce que il se trouve que son père, Louis Andrieux, un notable de la bourgeoisie de l'Ouest parisien, eh bien, ce notable, il rencontre une femme qui est de très loin sa cadette et qui n'est pas son épouse. Et de là sort, de là naît un enfant. Et cet enfant, il va en camoufler l'existence jusqu'à son état civil. Et donc, il va lui forger ce nom de Louis Aragon, mm-hmm. Qui est une sorte de nom de code, puisque lui s'appelle Louis Andrieux. On retrouve le même prénom, on retrouve les mêmes initiales. Et peut-être pour Aragon, le fait qu'il ait été ambassadeur en Espagne. Donc, on entre déjà dans une vie assez particulière et on va camoufler cette identité à l'enfant Aragon. Du côté d'Elsa Triolet, c'est beaucoup plus simple, puisque elle est sa mère et sa mère. Et son père et son père. Elle naît par contre très loin d'ici puisqu'elle est à Moscou en Russie dans une famille juive, ce qui n'est pas toujours si simple dans la Russie tsariste de cette période puisqu'elle naît en 1896.
Mais alors justement, Elsa Triolet, c'est pas son vrai nom elle non plus.
Et en réalité, c'est son nom de jeune fille, si je peux dire, Ella Kagan. Et il se trouve que avec la guerre et qui est très dure aussi pour la Russie dans le cadre de la Première Guerre mondiale, elle va être amenée à quitter son pays en 1917. Mais avant de le quitter, elle y croise un Français, un officier français. Ils vont partir tous les deux le plus loin possible. Ils vont partir à Tahiti. Mais en l'occurrence, cet homme, il s'appelle André Triolet. Et donc, c'est son mari. Et donc, Ella Kagan devient Elsa Triolet. Simplement, elle garde ce nom malgré le fait qu'elle divorce avec André Triolet. Et qu'elle épouse Aragon, elle garde ce nom pourquoi ? Parce qu'entre-temps, notamment à la suite de son voyage à Tahiti, Elsa Triolet, qui est architecte de formation, eh bien, sur les conseils du grand romancier Gorky, eh bien, elle devient écrivaine, elle devient romancière, et donc elle commence à se faire connaître sous ce nom-là d'Elsa Triolet. Donc elle va garder ce nom.
Elle était, quand elle a écrit ses premiers ouvrages, elle était déjà mariée, ou elle était déjà divorcée. Elle était déjà divorcée.
En réalité, elle n'avait pas encore épousé Aragon parce qu'elle ne l'épouse qu'à la veille de la guerre.
Non, je parle de Triolet. Je suis toujours sur le nom de Triolet.
Ah oui, au moment où les ouvrages paraissent d'Elsa Triolet, elle n'est plus, comment dire, en couple avec Elsa, avec comment s'appelle-t-il, avec André Triolet dans la mesure où après Tahiti, il rentre en France et elle, qui est une femme de la ville, elle a vécu à Moscou, elle vit à Berlin. La voilà qui s'installe à Limoges et c'est la vie à Limoges. Je ne lui plais que modestement. Et c'est pas la seule raison, mais en tout cas, il se trouve qu'ils vont, ils vont plus vivre ensemble, mais ils gardent des liens forts, et donc elle garde ce nom d'écriture, ce nom de plume, Elsa Triolet.
Alors, pour revenir à Louis Aragon, son histoire est liée avec l'écriture est quand même assez particulière, puisqu'il apprend, si mes souvenirs sont bons, à lire tout seul. C'est ça ?
Alors oui, il y a un livre assez passionnant qu'il a publié assez tardivement qui s'appelle Les Incipits, je n'ai jamais appris à écrire. Et il raconte effectivement ses rapports à l'écriture, ses rapports à la lecture, et tout ça se fait extrêmement tôt. Et donc il commence à écrire déjà, étant enfant, toute une série d'éléments de littérature, dont un petit texte qui s'appelle Quelle âme divine, qu'il publiera plus tard au sein d'un recueil incroyable qu'il écrit quand il sera déjà une figure littéraire importante engagée dans le surréalisme, et il place ce recueil, ce texte qu'il a écrit enfant, il le place au milieu de textes qu'il a écrit adulte, et personne n'y voit du feu. Ce qui montre aussi la qualité de cette écriture, même à l'âge d'un enfant.
Donc en fait, en plus, il est autodidacte finalement.
Oui, mais nuançons un peu. Autodidacte, bien sûr, mais quand même, il évolue dans un milieu qui est très tourné vers la littérature. Il suit une scolarité dans des bons établissements publics, mais voilà. Donc malgré tout, voilà.
Il a côtoyé les grands. Qui a-t-il côtoyé Louis Aragon ?
Alors, quand
qui aurait pu l'inspirer, pardon, qui aurait pu l'inspirer dans sa dans son écriture, dans sa recherche, dans sa poursuite professionnelle.
Il faut bien mesurer que ses deux parents sont, enfin ses deux parents, vous avez dit, je vais raconter, c'est le parcours, mais sont deux personnes, sont deux auteurs, si vous voulez. Sa mère écrit et son père écrit aussi. Hein.
D'accord.
Enfin, écrit pas comme écrivain, mais en tout cas, dans son activité politique, il a publié des livres en son nom, pas des livres de fiction, mais des livres tout de même. Donc, il baigne quand même dans un univers dans où l'écrit est présent. Mais l'accélération va se faire quand il va devenir vraiment écrivain avec la rupture de la guerre. C'est peut-être un point sur lequel vous voulez qu'on revienne plus tard, ou on y va ?
On y va, allez, c'est parti.
Eh bien, allons-y. C'est une rupture majeure pour Aragon. Pourquoi ? Il est né en 97, et donc il fait partie de la classe 17, comme on disait à ce moment-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 17, c'est presque la fin, mais c'est pas la fin. Ouais. C'est donc la Première Guerre mondiale. Et il se trouve que Gare de l'Est, il part comme soldat, parce qu'il est mobilisé, et c'est là que sa mère, qui officiellement, selon le récit familial, aurait été sa sœur, vous voyez, toute l'espèce d'hypocrisie dans lequel on entoure la réalité de sa biographie, pour cacher les apparences. Donc sa mère vient sur le quai de la gare et lui annonce que elle, qui était censée être sa sœur, est en réalité sa mère, que celui qui est présenté comme son parrain est en réalité son père. Enfin voilà, on lui dévoile le mensonge qui avait été présent. Donc c'est une rupture forte parce que déjà, la guerre, ça veut dire concrètement pour Aragon, eh bien, le mensonge familial déchiré. Deuxièmement, la guerre, c'est une confrontation terrible avec des réalités épouvantables. Il avait commencé des études de médecine assez importantes, et donc il est au front, il est confronté directement à cela, puisqu'il est médecin auxiliaire. Ça veut dire que les gueules cassées et tous les gens qui sont broyés par la guerre, il est directement confronté à eux. Et donc c'est vraiment une rupture aussi sur le plan biographique, la guerre, par cette expérience absolument traumatisante et déterminante pour la suite. Et c'est à partir de là qu'Aragon va vraiment arrêter après cela son parcours comme étudiant en médecine. Mm-hmm. À partir de là, c'est là qu'il va se lancer dans l'aventure de Dada, puis du surréalisme, qui sont les deux aventures qui sont les enfants de la Première Guerre mondiale, en réalité. Une sorte de rejet par rapport à cette société qui a pu produire une boucherie aussi épouvantable. Et donc, avec Breton et avec Soupeau, il crée le surréalisme dont nous fêtons à quelques égards cette année le 100e anniversaire, dans la mesure où le manifeste du surréalisme apparu en 1924 et le texte fondateur également d'Aragon qui s'appelle Une vague de rêve apparu il y a 100 ans en 1924. Donc toute l'année, vous verrez dans toute la France des fêtes du surréalisme pour son centenaire, et Aragon est aux premières loges, et ça c'est vraiment l'enfant de la guerre.
Autre petite question par rapport à la guerre et à ce qu'il a appris juste avant de partir au front, qui est quand même assez incroyable d'apprendre ça sur sa propre vie alors qu'on est quasiment adulte. Est-ce que ça n'a pas nourri aussi ses premiers écrits ? Est-ce que ces écrits, il y a peut-être une différence entre les premiers écrits publiés et puis les écrits peut-être plus doux, si je puis me permettre, parce que moi je ne pense qu'aux yeux d'Elsa, il y a peut-être cette dichotomie entre les deux écrits, non ?
C'est certain que la révolte, elle est, et la colère, elle est immense et infinie avec cette guerre et avec ce mensonge dévoilé, et c'est vrai qu'elle habite fortement toute l'aventure d'Adada et toute l'aventure surréaliste, qui est une aventure pour, mais qui est aussi une formidable aventure contre. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est absolument fort. Il y a des textes très cinglants, d'Aragon qui sont là. Vous savez, à un moment, il y a une formule qui revient souvent dans les citations sur Internet à propos d'Aragon. On oublie un peu le contexte, qui est un contexte très hostile, qui dit, voilà, quelque chose comme « j'ai rêvé d'une gomme pour effacer l'immondice humaine ». Vous voyez, ça dit quelque chose aussi de cette... Je cite de mémoire, donc peut-être que j'ai écorché un petit peu. Mais vous voyez,
c'est... On a bien compris
vous avez compris l'idée.
Voilà. Bien. Justement, j'aimerais bien qu'on revienne quelques instants sur ce surréalisme. Mm-hmm. Je vous propose, monsieur Roubaud-Kouachi, de faire une petite pause de quelques minutes. Et puis nous revenons sur le surréalisme de Aragon. D'accord ?
Très bien.
Nous voilà de retour dans Culturellement Vôtre avec monsieur Guillaume Roubaud-Kouachi de la maison Triolet Aragon. Alors, tout à l'heure, nous avons fini sur le surréalisme, et j'aimerais justement que vous nous définissiez un petit peu ce qu'est le surréalisme en littérature. Comment, quand on lit un ouvrage, comment peut-on savoir que cet ouvrage est surréaliste?
Je ne sais pas s'il y a un test qui permet de le repérer. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que C'est donc une remise en question globale du monde, mais une remise en question globale aussi de la rationalité. Donc on est dans un moment qu'il faut bien comprendre, dans la mesure où il est lié aussi aux découvertes liées à la psychanalyse, à Freud, à l'inconscient. Et donc il y a l'idée qu'il faut aller explorer, non seulement au-delà de la rationalité du réel directement palpable et qui peut être réductible en équation, si je puis dire, il faut aller chercher dans les profondeurs de l'inconscient dans lequel peut-être il y aurait quelque chose à entendre et à aller chercher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, parmi les pratiques des surréalistes, il va y avoir la pratique de l'écriture automatique, par exemple. Vous voyez, ça veut dire qu'ils vont essayer d'être dans un état le moins conscient possible, de ne pas dormir autant que possible, et puis après, de laisser l'inconscient surgir, vous voyez, à travers un certain nombre de choses. Voilà.
Donc ça veut dire je vais essayer, je vais faire le test, hein, vais essayer, je vais pas dormir.
Oui, voilà.
Et ensuite j'y vais, j'y crée.
Et ben voilà, et essayer, on verra ce que ça donne. Voilà. Alors après, c'est vrai que Aragon n'est pas celui qui a le plus pratiqué cela, c'est Death Note, c'est notamment qu'il a beaucoup fait, parce que bon, au bout d'un moment, bon, ça a un côté expérimental, mais c'est vrai que c'est pas toujours grandiose. Je dis ça, on sait jamais. J'attends de voir vos textes, mais néanmoins, c'est pas toujours grandiose. Et donc après, Aragon, il a écrit malgré tout des chefs-d'œuvre dans cette période surréaliste, parmi lesquels Le Pays de Paris, par exemple, qui est une œuvre, on voit bien que c'est pas de l'écriture automatique, si je puis dire, voilà, par exemple.
D'accord. Alors, on a parlé un petit peu de Louis Aragon. J'aimerais qu'on revienne sur Elsa. Ils se sont rencontrés bien après la fin de la guerre. Hein. Ouais. Nous sommes en 1928 à Montmartre. Ouais. Enfin, ouais. En tout cas à Paris.
C'est ça, Montmartre, si je ne me trompe pas.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous
Montparnasse.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur Elsa?
Elsa, donc, Moscou, Tahiti, Limoges, voilà. Donc non, elle revient, elle va s'installer assez durablement à Paris, et elle est très liée à Maïakovski. En fait, c'est une des raisons de son départ de Russie. Maïakovski, un grand poète russe. D'ailleurs, ils ont une forme de premier amour, en quelque sorte. Elle le présente à sa sœur, qui est introduite dans le monde des lettres, via son mari aussi, Bric, et puis... malheureusement, un coup de foudre entre Maïakovski et la sœur d'Elsa Triolet. C'est une des raisons du départ d'Elsa Triolet en dehors de la Russie, loin de Maïakovski. Donc, cependant, elle reste liée à Maïakovski, dont elle veut faire connaître l'œuvre. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle essaye de rencontrer l'homme qui a écrit Le Paysan de Paris, c'est-à-dire une des grandes figures de la littérature française commençante, une des grandes figures du surréalisme, parce qu'elle pense qu'entre le futurisme russe et le surréalisme français, il doit y avoir des ponts et des liens. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'elle veut entrer en contact avec Aragon, et ils se rencontrent le 6 novembre 1928 à la Coupole à Paris. Et il y a un très beau film d'Agnès Varda qui s'appelle Elsa la Rose, dans lequel elle leur fait rejouer la scène, mais beaucoup plus tard, dans les années 60, vous voyez bien l'âge d'Agnès Varda. Et donc Aragon commente et il dit « Et nous ne sommes plus quittés de toute la vie ». Voilà, c'est le point de départ, 6 novembre 1928 à la Coupole.
Alors, ils ne se sont plus quittés, ils ont fait plein de choses ensemble. Ouais. Alors, moi je sais, hein, mais je sais juste qu'ils ont créé le Comité National des Écrivains. Ouais. Mais ils n'ont pas fait que ça. Hein. Donc, le Comité National des Écrivains a été créé en 1943. Mais il y a eu d'autres choses avant, après.
Bah, voilà, plein, mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors je vais essayer d'aller à l'essentiel. Oui. En gros, Elsa Triolet, elle a une œuvre en russe. Je vous l'ai dit. À Tahiti, par exemple, et d'autres œuvres.
Elle écrivait
en russe.
En russe.
En russe.
Même après son mariage avec...
Justement, j'y viens. Et donc, elle écrit en russe, mais elle vit en France. Et elle y reste. Alors, se pose la question pour elle de savoir si elle peut écrire en français. Il y a peu d'écrivains qui ont une œuvre en deux langues, vous voyez. Alors, elle a une œuvre de traductrice. C'est elle qui va traduire Le Voyage au bout de la nuit, de Céline, par exemple. C'est elle qui va traduire dans l'autre sens des œuvres de Maïakovski, des œuvres de Tchekhov, etc. Toujours maintenant, quand vous allez acheter une pièce de Tchekhov, souvent c'est une traduction des Triolet, encore aujourd'hui. Mais, à un moment, à la fin des années 30, elle se lance. Elle va écrire Bonsoir Thérèse, un ouvrage en français. Et très vite, c'est pas juste une petite écriture en français quelconque, puisque elle écrit Le Cheval Blanc pendant la guerre, elle a des voix pour qu'elle ait le prix Goncourt, elle l'a pas, et à la Libération, c'est la première femme à recevoir le prix Goncourt. Donc, elle a une œuvre et en russe, et en français, et de traductrice. C'est une femme importante, même si sa mémoire a parfois été un petit peu minorée, parce qu'on minorait beaucoup la place des femmes en littérature. Mais aujourd'hui, il est grand temps de redécouvrir ce grand personnage de la littérature française et russe, donc un peu mondiale à certains égards. Je reviens à Aragon. Aragon fait beaucoup de choses. Le surréalisme, mais pour diverses raisons un peu complexes, il y a une rupture avec les surréalistes qui s'opèrent, au début des années 30. et il va s'engager dans un nouvel élan qui est plutôt tourné du côté du réalisme, et c'est le grand cycle romanesque du monde réel, les beaux quartiers qui obtient le prix Renaudot, et toute une série d'aventures qui mènent dans cette direction là du côté du roman. Et puis la poésie n'est jamais très loin, puisqu'Aragon, le roman, la poésie, les deux, toute sa vie, si je peux dire, et aussi des formes à la frontière entre le roman et la poésie. Et quand survient la guerre, se pose vite la question de savoir s'ils vont rester ou s'ils vont partir. Mm-hmm. La plupart des surréalistes, il n'y a plus surréalistes, mais la plupart des surréalistes s'en vont. Breton s'en va, etc., mm-hmm. etc., etc., etc. Aragon, lui, décide de rester, alors que c'est très dangereux. Très dangereux pour deux raisons essentielles. La première, c'est parce que lui a un engagement politique, il est communiste. La deuxième, c'est que sa femme, je vous ai dit, elle est pas croyante, mais aux yeux des nazis qui croient à la race, elle est racialement juive. Donc, plus russe, ça fait un cocktail pour un nazi qui est assez élevé.
Et on est à l'époque du régime de Vichy, en plus.
Exactement. Donc, les dangers sont extrêmes. Et d'ailleurs, rappelez-vous, Desnos meurt dans ce cadre-là. Ouais. Donc, c'est pas parce que c'est des poètes qu'on comprend pas de risques, si vous voulez. Ils prennent des risques, vraiment. Leur avant de liaison, Dudash, il est tué. Donc, je veux dire, et autour d'eux, ils vont se retrouver avec le CNE, ils vont se retrouver actifs, notamment dans des publications de la résistance.
Alors, je répète, le
Comité national des écrivains, et donc ils vont se retrouver actifs dans des publications de la résistance, et en l'occurrence les Lettres françaises, notamment les Lettres françaises, ça a été créé par un von Agreven allemand qui s'appelle Jacques Decourt. Jacques
Decourt,
non, c'est pendant la guerre, il va diriger les Lettres françaises après la guerre.
D'accord,
mais les Lettres françaises sont créées pendant la guerre, notamment en lien avec Aragon lui-même, et il se trouve que le créateur des Lettres françaises, Jacques Decourt, il est fusillé par les Allemands au Mont Valérien. Donc si vous voulez, c'est pas de la résistance d'opérette, si vous voulez. Donc voilà, il décide de rester en France. Et donc alors oui, c'est vrai, vous avez raison. Prenons cette étape-là. Avant la résistance, il y a d'abord la guerre. 39, c'est déclaration de guerre. Et puis, à un moment, il va y avoir les opérations militaires sérieuses. Puis, il y a la drôle de guerre. Et puis après, on y va. Et donc, Aragon, qui est un homme qui n'est plus si jeune que ça, néanmoins, il a fait la Première Guerre mondiale et il fait la Deuxième Guerre mondiale. Il est au front, il est à Dunkerque. Bataille qu'on a longtemps oubliée, qui est une bataille pourtant énorme. Et qui l'a aussi beaucoup marqué. Donc, il fait ça en 40. Et au moment de la démobilisation, eh bien, il décide de rester en France. Aragon, comme les Atriolais, et ils vont résister. Ils résistent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment mettre sa plume au service de la résistance. Mais c'est prendre des risques malgré tout pour les raisons que vous dites. Ils le font d'abord avec ce qu'il appelle de la poésie de circonstance, de contrebande, excusez-moi, la poésie de contrebande, excusez-moi. C'est quoi la poésie de contrebande? C'est que si vous écrivez un petit texte, appelant à la résistance, en ayant dormi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que votre texte, il va pas passer. Puisque vous imaginez bien on va vous dire merci beaucoup, mais on va pas le publier. Puisque c'est Vichy, le nazisme, etc., ou la collaboration. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va publier un texte comme Brocéliande. Donc, a priori, Brocéliande, on se dit, bon, ça parle du Moyen-Âge, de la forêt, ça ne mange pas de pain. Et puis, en réalité, quand vous lisez bien, vous entendez des choses comme « Impossible est un mot banni de notre terre, il n'appartient qu'à vous de les chasser d'ici, etc. etc. » Et en fait, quand on entend vraiment, on comprend derrière Brocéliande qu'en fait, c'est un appel à la résistance. Il y a beaucoup de textes importants qui sont fascinants dans cette période de la guerre, et là, c'est la poésie qui revient en premier. Pourquoi? Parce que la poésie, ça peut se retenir. Ça sert à ça. La rime revient. Donc, pour la clandestinité, quand on peut pas avoir de livres, quand c'est dangereux de les avoir, la poésie a une force incroyable. Et c'est pour ça que les alliés vont aussi larguer, au-dessus de la France, des poèmes des Loirs, Liberté, bien sûr, mais aussi La Rose et le Réséda d'Aragon, des poèmes parce qu'ils ont cette capacité de dire en peu de mots, donner de l'espoir et de pouvoir se répandre clandestinement.
Alors, en parlant de poèmes, je vais vous lancer un défi.
Oui.
On se retrouve dans quelques minutes et je vous donne le défi. Vous le relevez?
Évidemment.
À tout à l'heure. Nous voilà de retour dans Culturellement Vôtre avec la maison Aragon et Triolet. Et je vous lançais un défi, monsieur Rubokwashi. Pouvez-vous nous citer un poème, celui que vous voulez, de Louis Aragon?
Alors, il y a un poème que je vais vous lire qui a été mis en musique par Francis Poulenc lorsqu'il a été sommé par les nazis de faire un concert à Paris. Et donc, il leur a fait un mauvais tour, en quelque sorte. Il leur a dit, et maintenant, je vais vous proposer, un poème d'un des plus grands, peut-être même du plus grand poète français vivant. Et donc, vous imaginez qu'il a donc fait entendre Aragon, un poète communiste, aux nazis. Ça avait fait un drôle d'effet. Alors, je vous le lis. J'ai traversé les ponts de C, c'est là que tout a commencé. Une chanson des temps passés parle d'un chevalier blessé, d'une rose sur la chaussée et d'un corsage délacé, du château d'un duc insensé et des cygnes dans les fossés, de la prairie où vient danser une éternelle fiancée. Et j'ai bu, comme un lait glacé, le long lait des gloires faussées, la Loire emporte mes pensées avec les voitures versées et les armes désamorcées et les larmes mal effacées. Ô ma France, comme m'a délaissée, j'ai traversé les ponts de C.
Magnifique. Ça donne envie de relire, hein, du Aragon.
Ah, mais écoutez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de pire dans votre vie, voilà. De lire et de relire Aragon, Les yeux d'Elsa ou beaucoup d'autres. Peut-être juste dire un mot pour la place de la guerre dans la trajectoire d'Aragon. Elle est absolument fondamentale. Vous le dites, la première qui l'amène vers Dada et le surréalisme. Et la deuxième qui aussi va en faire un peu le poète national. Puisque lui, il est resté et il a porté cette voix de résistance quand beaucoup se sont tus ou d'autres sont partis. Et, cette question, elle reste très présente en lui, y compris après la guerre. Par exemple, en 1955, il y a une rue qui va être inaugurée, qui est la rue du groupe Manouchian. Et c'est l'occasion pour Aragon, qui avait fait d'autres allusions déjà, notamment au soldat noir, c'est un beau poème qu'il écrit un peu après la guerre. Mais donc là, un peu plus tard, il écrit ce poème, donc, consacré à Manouchian et aux autres résistants étrangers qui se sont battus pour que vive une France libre. Et évidemment, on y pense beaucoup en ce moment, puisque ces vers-là, ces vers de strophe pour se souvenir, qui ont été ensuite mis en chanson par Léo Ferré dans une version toujours bouleversante, ces vers d'Aragon, donc strophe pour se souvenir, repris dans le roman inachevé en 1956, eh bien, sont désormais au Panthéon à l'occasion de la panthéonisation de Missak Manouchian qui a eu lieu en 2024.
Oh, magnifique. Ben, merci beaucoup. Puisque nous parlons de ce couple, ils ont quand même vécu ensemble, hein. Bon, ils se sont rencontrés en 28, rapidement tombés amoureux. Ils se sont mariés quelques années plus tard, donc nous sommes en 39. Donc là, c'est encore, c'est la guerre qui va bientôt éclater. Ils sont mariés un petit peu avant le début de la guerre, c'est ça?
Oui, c'est parce qu'ils savaient très bien que la guerre allait venir, et donc justement, c'était pour
le faire avant. Hein.
Voilà, c'est ça.
Et puis, on a parlé de l'époque de la guerre, et c'est après, c'est en 51 que Louis Aragon décide de faire un cadeau à sa femme et de lui acheter le fameux petit moulin.
C'est juste, il faut bien comprendre qu'il y a un changement de statut quand même après la guerre, dans la mesure où Aragon devient vraiment une figure très importante. Mais Elsa Triolet aussi, je vous l'ai dit, elle a une activité résistante authentique pendant la guerre. Elle a écrit aussi pendant la guerre des nouvelles clandestines, dans Les Amants d'Avignon, publiées aux éditions de Minuit. Éditions de Minuit, pourquoi ? Parce que c'est édition clandestine, c'est ça. Et puis elle va proposer un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Premier Accro coûte 200 francs, et pour la première fois, une femme va obtenir le prix Goncourt, c'est elle. Et donc ça veut dire que cette maison qu'ils acquièrent en 1951, en réalité ils l'ont faite ensemble, parce que Aragon est devenu un grand écrivain, mais Elsa Triolet a vendu aussi beaucoup de livres, notamment à l'occasion de ce prix Goncourt et des livres qui ont suivi. Alors pourquoi acheter ce moulin? Parce qu'ils étaient locataires d'un appartement à Paris qui était somme toute assez modeste, et qu'Aragon était directeur de presse, il dirige les Lettres Françaises, qui est un grand hebdomadaire culturel, qui est un peu le pendant de gauche du Figaro littéraire, et donc il y a une activité mondaine, politique, artistique très intense, qui fait que si vous voulez écrire au calme chez vous, c'est pas possible, parce que le téléphone sonne, il y a toujours des rencontres, etc. Ça bouge beaucoup. Le moulin, c'est l'inverse, ça veut dire on est à Saint-Arnoult en Yvelines, il y a pas de péage à ce moment-là, on est un peu à distance et au calme, et on a de l'espace, on a du temps, donc c'est un lieu où il y a des amis qui viennent, bien sûr, mais c'est quand même un lieu pour l'écriture, pour penser, pour réfléchir. Et puis Elsa Triolet, femme de la grande ville, Moscou, Berlin, j'ai déjà dit, eh bien, elle écrit à sa sœur, dans une correspondance qui a été éditée il y a quelques années, sa sœur Lily Brick, elle écrit « J'ai découvert la nature ». Voilà, parce qu'à Saint-Arnoult, elle voit la faune, elle voit des oiseaux, elle voit toute une série d'animaux ou de plantes qu'évidemment dans la vie parisienne on voit moins ou qu'on ne voit pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un havre de ressourcement qui est très important, à tel point qu'elle qui a beaucoup écrit sur la notion d'être étranger, si vous voulez, puisque aux yeux des Russes elle est française, mais aux yeux des Français elle est russe. Donc elle se sent toujours un petit peu pas chez elle, si vous voulez, eh bien là, à Saint-Arnoux, elle se sent chez elle. Et c'est pour ça qu'elle demande très tôt, quand elle mourra, elle souhaite être enterrée à Saint-Arnoux-en-Yvelines. Et quand, en 1970, le cœur devient trop faible et qu'Elsa Triolet décède, elle meurt à Saint-Arnoux-en-Yvelines, eh bien, Aragon demande au président de la République d'alors, Georges Pompidou, qui, comme chacun sait, était un grand lettré qui connaissait par cœur maints poèmes d'Aragon, d'Elvar et des autres, eh bien, évidemment, accorde tout de suite l'autorisation à Elsa Triolet d'être enterrée ici. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Elsa Triolet est enterrée à Saint-Arnoux-en-Yvelines, dans le parc de leur maison. Leur grand ami Rostropovitch, soviétique, mais qui a eu beaucoup d'ennuis avec les soviétiques, puisqu'il a été banni, déchu de sa nationalité, mais Aragon garde une fidélité à Rostropovitch sans faille, et d'ailleurs il l'accueille quand Rostropovitch doit quitter l'Union soviétique. Eh bien, Rostropovitch est venu jouer une sarabande de Bach, que Elsa Triolet aimait tout particulièrement, sur cette tombe. Donc voilà où elle repose aujourd'hui éternellement. Sur la tombe, sont écrits quelques mots, qui sont issus d'une aventure éditoriale assez singulière qui s'appelle les œuvres romanesques croisées. Parce que quel est le drame d'Elsa Triolet dans le monde dans lequel elle a vécu? Ben, c'est d'avoir été, pour une part, la femme d'Aragon. C'est pas un drame parce qu'on sent un amour intense entre les deux. Ils se sont sauvés à quelques égards. Parce que quand en 28 ils se rencontrent, les deux sont presque suicidaires à cause d'amour déçu. On l'a dit pour Mayakovsky. On aurait pu évoquer Nancy Cunard pour Aragon. Donc ils se sauvent. Mais en même temps, Elsa Triolet, elle est toujours suspecte d'être publiée parce qu'elle est la femme d'Aragon, ce qui est terrible. Et elle est toujours la femme d'Aragon. Et donc, ils vont lancer cette aventure. Ça veut dire que, à l'époque, il n'y avait pas de Pléiade Aragon. Donc, si vous voulez voir tout Aragon, il faut avoir tout Elsa. Parce que c'est œuvre romanesque croisée, c'est une souscription. Et donc, tome 1, Elsa, tome 2, Aragon, tome 3, Elsa, tome 4. Et c'est le premier tome, lorsqu'il paraît, il y a des préfaces nouvelles à chaque fois. Et donc, ce sont les premiers mots de la préface au premier volume qui sont reproduits sur la tombe, quand nous serons tous deux des gisants, quelque chose comme ça. Un très beau texte qui est bien plus beau, que je suis désolé de ne pas l'avoir en tête.
Moi, j'ai un texte, mais alors est-ce qu'il est vraiment sur la tombe? Oui. Ah non, c'est pas sur la tombe d'Elsa.
Oui.
Je me suis trompée, c'est celui sur la tombe d'Aragon que je connais. Je tombe. Non, c'est pas ça.
Aujourd'hui, les deux sont enterrés dans au même endroit, puisqu'en 70, donc Elsa Triolet meurt.
Ouais.
Elle va être enterrée dans le parc. Et Aragon meurt en 1982. Et tout naturellement, bien qu'il ait eu une vie ensuite, puisqu'Elsa Triolet est la femme de sa vie et la dernière femme de sa vie, puisque dans les 12 années qui lui restent à vivre, Aragon aura une vie amoureuse, homosexuelle, en l'occurrence en particulier avec le poète Jean Rista, qui est décédé il y a quelques mois. Et donc en 1982, il n'empêche bien sûr que Aragon rejoint Elsa Triolet dans la tombe du parc de Saint-Arnoux-en-Yvelines, où ils sont désormais tous les deux enterrés.
Que l'on peut voir à côté, enfin quand on est dans les bureaux.
Oui, bien sûr, tout à fait.
À la fenêtre.
Oui.
Et je crois que c'est Elsa qui avait dit qu'elle voulait que deux êtres soient enterrés près de deux êtres, donc les êtres et puis l'être, l'arbre, les deux arbres.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, cet arbre a été emporté par une tempête, mais il se trouve que vous avez un être qui avait un même tronc et vous avez même base de tronc et qui partait ensuite en deux troncs ensuite.
D'accord.
Et donc c'était au pied de cet arbre-là qui dit si bien le couple,
c'est
qui est une
beau.
Notion fondamentale dans la vie, mais aussi dans l'œuvre d'Aragon, notamment dans le fou d'Elsa, qu'elle voulait être enterrée. Et effectivement, c'est là, et c'est un très bel endroit qu'on voit depuis effectivement le bureau d'Elsa Triolet.
Alors justement, en parlant de bureau, on va faire une petite pause et puis après on va parler un petit peu plus de la maison, de l'intérieur, de ce qu'on peut y voir, de ce qu'il y a, du bruit, du moulin qu'on entend encore.
Oui, c'est vrai.
Hein, je vous dis tu coupes là. Voilà, tu couperas. Voilà. on se retrouve dans quelques instants.
Avec plaisir.
Nous voilà de retour. Alors, nous étions en train de parler de la maison du moulin. D'Aragon et de Triolet. J'aimerais que nous en disiez. Donc c'est un peu plus, pardon, je finis ma phrase. C'est un moulin qui est très ancien puisqu'il date du 12e-13e siècle. Est-ce qu'il était encore en activité quand ils l'ont acheté? Est-ce que la roue tourne toujours? Et puis allez-y, faites-nous rêver et faites-nous visiter cette maison.
Essayons de le faire en quelques minutes. Donc effectivement, on est en plein bassin parisien, certainement en Yvelines, donc forcément une terre fertile. Et qui dit terre fertile sur le plan des céréaliers dit moulin, forcément, voilà. Et donc un moulin à eau. Il y a la Rémarde, affluent de l'Orge, affluent de la Seine, dans le bassin hydrographique de la Seine. Et donc, il y a un moulin. Il y a beaucoup de moulins dans cette région. Il y a donc un moulin ici, un moulin qui était implanté dès le Moyen-Âge. Mais ce moulin, il a été, évidemment, vous imaginez bien, reconfiguré à de nombreuses reprises, essentiellement, j'ai stabilisé ce qu'on voit aujourd'hui, à peu près stabilisé à la fin de l'Ancien Régime, ou à la fin de l'Ancien Régime, en gros. Et lorsqu'il a fait de la maison en 1951...
Mais je me permets de vous couper, parce que cette maison, elle a quand même eu des propriétaires assez...
C'est vrai.
En dehors d'Aragon, de Triolet, elle a quand même eu des grands propriétaires.
Elle a une histoire qui est liée au monde de l'art à certains égards. Et ce quartier Bresson a été lié notamment à cela. Il faut bien mesurer que d'ailleurs il y avait des liens importants entre Aragon et Elsa et les artistes, parce que le surréalisme d'emblée est un mouvement, comment dire, pluridisciplinaire. Pensez à Man Ray, pensez à Chirico, que sais-je encore, à Max Ernst, etc. Et puis c'est resté en permanence, notamment le lien avec les photographes est très fort, Ronis, Doano, etc. Les liens avec Aragon et Elsa sont très très nombreux, Gisèle Freund, etc. Donc, 51 années de la maison, et n'oubliez pas qu'Elsa Triolet est architecte. Et donc en fait, c'est la maison du couple, mais c'est quand même la maison d'Elsa. Parce que c'est Elsa qui va vraiment réaménager le moulin, qui va faire percer des fenêtres pour que ce soit bien lumineux, qui va aménager en installant des meubles, qu'elle va raboter, chiner, plus ou moins réadapter pour qu'il soit sur mesure. Et puis cette maison, je vous l'ai dit, elle est habitée par cette problématique d'Elsa Triolet, c'est-à-dire... Être chez elle, ça veut dire être en même temps dans différents univers, et notamment ceux qu'elle a connus et qui sont lointains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la maison, il y a des touches partout, de Russie, évidemment, qui sont la Russie de sa terre natale, des touches aussi de Tahiti, qui sont un moment important dans sa vie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc cette maison, voilà, elle a cette âme-là, ça veut dire quoi ? Et puis des touches de décalage, une petite touche un peu surréaliste en quelque sorte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le grand salon, vous avez pour tenir la lumière une pagaie et une sagaie polynésienne, par exemple, vous voyez, des choses comme ça, des objets détournés, en quelque sorte. Et puis, le lien avec les artistes, il se manifeste par la présence de beaucoup d'œuvres d'art. Ça veut dire que dans la cuisine, vous avez une grande œuvre de Fernand Léger, qui a été faite exprès pour Elsa Triolet, qui était notamment l'autrice du Cheval Blanc d'une part et du Cheval Roux d'autre part, et Léger fait donc un cheval mi-blanc, mi-orange, en référence à cela. Vous avez des dessous de plats sur la table, bien sûr, comme tout le monde, mais c'était des dessous de plats Picasso, en l'occurrence, voilà. Bon, voilà, donc il y a tout cet univers qu'on retrouve un peu présent partout. Que vous dire d'autre encore ? Peut-être vous dire que...
Alors, qu'on rentre déjà par la cuisine.
Oui, c'est vrai, effectivement, on rentre dans la cuisine.
C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos maisons, on rentre plutôt par le salon, rares sont les...
C'est vrai. Voilà. À vrai dire, on peut entrer par le salon si on veut. Pour la visite, on peut pas, mais le salon donne sur la cour. Donc si vraiment on voulait, si on pourrait. Mais,
d'accord.
Mais,
ouais. Donc c'est le circuit de visite, en fait,
c'est ça,
fait qu'on
fait
rentre
par
la cuisine, avec de magnifiques carreaux de dalles.
C'est vrai, voilà. Tout à fait. Oui, c'est
beau
vrai.
Bleu.
C'est la couleur préférée d'Elsa, c'est elle qui va chiner vraiment. Il faudrait parler aussi du parc, même si on va revenir dans la maison.
On reparlera du parc.
D'accord, restons dans
la
maison.
Parce que je sais que vous avez de belles œuvres contemporaines aussi dans le parc.
C'est vrai, c'est vrai. Non, voilà, donc ce qui est frappant, si vous voulez, pour vous le dire d'un mot, c'est que c'est une maison qui n'a pas fait l'objet d'une scénographie après la mort d'Aragon. On a la chance, vous voyez, par rapport à la maison de Balzac. La maison de Balzac, elle était mouvante, mais en réalité, il ne reste plus grand-chose, si vous voulez. Il reste la table. Et de ce point de vue, c'est frappant, d'ailleurs. La table de Balzac, si vous l'avez vue un jour, elle est toute simple. Vous voyez, parfois, vous avez des écrivains médiocres avec des espèces de grands bureaux grandiloquents. La table de Balzac, elle est toute simple. Et bien, le bureau d'Aragon est tout simple aussi. Un bureau... Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ostentation. C'est pas des meubles Louis XV. C'est des choses assez simples, en général. Simple, mais recherché et voilà. Et soigné. Ça, c'est une des caractéristiques. Et surtout, il n'y a pas de scénographie. C'est une des différences par rapport à d'autres maisons d'écrivains. C'est que là, c'est la maison telle qu'ils nous l'ont laissée. Et donc, elle est très habitée, si vous voulez. Ça veut dire que quand on y entre, on a l'impression que Aragon ou Elsa vont survivre d'un moment à l'autre pour venir vous parler à l'oreille, ou vont venir aller travailler, ou vont venir vous accueillir. C'est ce qui fait de cette maison une maison très touchante.
Et puis, il y a beaucoup d'ouvrages hein, dans cette maison. On lève les yeux, on a des livres absolument partout.
C'est vrai. Hein, on est en train de faire un grand inventaire.
Vous avez compté les livres ?
Justement, on est en train de faire un grand inventaire et un travail aussi de numérisation des dédicaces, parce qu'il y a toute la vie littéraire qui se retrouve ici, celle d'hier et d'avant-hier en quelque sorte, puisque Aragon, comment dire, est très lié à toute une série de personnages des temps anciens, mais aussi celle de demain et d'aujourd'hui en réalité, puisque de jeunes auteurs écrivent, envoient leurs livres à Aragon. Par exemple, le président actuel de la maison Elsa Triolet à Aragon, donc la structure associative qui gère la maison, qui est par ailleurs a été donnée à l'État, par Aragon. Aragon décide de donner la maison à l'État, et c'est donc une association qui la gère. Le président actuel de la maison, c'est le romancier Éric Orsenna. Et quand on va dans les bibliothèques d'Aragon, on trouve évidemment des ouvrages d'Éric Orsenna. Ah ouais. On voit du jeune Éric Orsenna qui l'envoie avec une dédicace évidemment très élogieuse, comme tout le monde, si je peux dire.
En parlant de dédicace, j'ai appris qu'il y avait au moins 60% des ouvrages de la bibliothèque qui étaient des ouvrages dédicacés par leurs auteurs.
C'est vraisemblable, mais nous ne le saurons quand on aura fini l'inventaire. Voilà, pour être très précis sur les statistiques. Mmh. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Donc on pense, mais on ne sait pas parce qu'on n'a pas fini. Il y aurait 30 000 ouvrages peut-être, et beaucoup de dédicaces, de tous horizons, que ce soit des amis très proches comme Éluard, ou des gens qu'on a priori qui paraissent plus lointains comme Marcel Pagnol. Et puis il y a pas très longtemps, on recevait pour un hommage à comment dire à Elsa Triolet, on recevait la grande comédienne Macha Merrill, qui nous racontait que Michel Legrand, vous savez qu'ils étaient ensemble, que Michel Legrand, étant jeune, était venu plusieurs fois à Saint-Arnoux en Yvelines voir Aragon. Et donc c'est ça qui est assez passionnant avec Aragon, c'est que dès qu'on creuse un peu, il y a une grande curiosité. C'est pas quelqu'un qui vieillit en ne s'intéressant qu'à ce qu'il aimait quand il était jeune. C'est quelqu'un qui vieillit mais qui demeure en permanence attentif à la création contemporaine. Et donc quand on va à la bibliothèque, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben on voit par exemple toute une série de correspondances avec Yves Saint-Laurent, avec des dessins que Yves Saint-Laurent lui envoie. Vous voyez, dans tous les côtés, toutes les dimensions. C'est un des aspects, c'est fascinant, je trouve, chez ces deux êtres.
Il est toujours resté dans son temps.
Exactement, voilà. Un goût pour la création en permanence.
Alors, justement, en parlant de création et de création contemporaine, on va sortir de la maison, sur la petite terrasse, vue sur le parc. Alors, j'ai dit petit parc, mais enfin, quand même 6 hectares. Hein.
C'est vrai.
Petit, c'est assez relatif. Ouais. Donc, 6 hectares paysagers, boisés et habillés, j'ai envie de dire ça comme ça, habillés de magnifiques créations contemporaines.
Alors, donc, 51 achats de la maison, 110 morts d'Elsa Triolet, 82 morts d'Aragon. En 1994, la maison ouvre au public. C'est donc le 30e anniversaire cette année. En l'occurrence, c'était...
Vous allez faire quelque chose alors?
Oui, le 12 octobre 2024. Donc voilà, on fête le 30e anniversaire de l'ouverture de la maison. Et donc le parc, très tôt, il va être investi par la création contemporaine. Puisque l'idée de la maison, c'est que d'une part, il y a la partie qui ne bouge pas. Donc la partie vraiment telle qu'elle a été laissée par les deux écrivains, et de l'autre qui a eu d'autres parties qui avaient d'autres destinations dans la maison pour les gardiens, etc., qui a été réaménagée, qui permet d'accueillir des expositions temporaires, et puis dans le parc on peut aussi faire des initiatives de lecture, de concerts, de spectacles, de manière générale. Le parc, Elsa Triolet, architecte, mais a aménagé les chemins, etc. Et dans le cadre des expositions, on en fait 3 par an au Moulin, dans le cadre des expositions qu'on fait, certains artistes décident de laisser en dépôt ou nous offrent un certain nombre d'œuvres. Et donc désormais, dans le parc, il y a toute une floraison de sculptures qui ont rejoint le parc sur les 6 hectares dans les registres différents de la création contemporaine, depuis Pierre Buraglio jusqu'à des artistes du street art comme Jeff Aerosol, dont une grande fresque jouxte Beaubourg, ou d'autres encore.
Eh bien, écoutez, monsieur Guillaume Robot-Kouachi, c'était un véritable plaisir et un régal de vous entendre parler de ces deux grands personnages de la littérature. On peut retrouver leur vie, leur environnement, pas très loin d'ici, à Saint-Arnoux en Yvelines, dans le fameux moulin d'Elsa Triolet et de Louis Aragon. Monsieur Robot-Kouachi, merci beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup. Au plaisir de vous accueillir.